Tech Café, c'est votre rendez-vous sur les nouvelles technologies avec nous. Profitez d'un résumé sur ce qui se passe dans le monde de la tech avec nos analyses et nos regards critiques. Apple reconnaît la Crimée comme russe, bon en tout cas en Russie, hein. Et Intel se tourne vers Taïwan pour la 5G. Comment la géopolitique s'invite une fois de plus dans l'actu tech ? On fait le point. Et dans la continuité, nous aborderons quelques éléments liés à des mesures antiterroristes. Alors si nous sommes naturellement en phase avec la lutte contre l'agence de propagande en ligne de l'État islamique, on peut peut-être être en revanche mal à l'aise de mesures prises par la Chine envers ce qu'elle considère à son tour comme du terrorisme, parfois même avant qu'il ne se soit manifesté. Et enfin, nous aborderons ensemble plusieurs thèmes autour de la conso en ligne, scandale dans le e-commerce, semaine difficile pour Amazon, polémique autour du Cybertruck de Tesla et suivi du Black Friday. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve pour nous emmener dans ce voyage le pilote de ligne de l'actualité tech qui cumule tellement d'heures de veille à son actif qu'on en a oublié de les compter, auteur de machines de jeu et des meilleures notes d'émissions de podcasts d'ActuTech, c'est le commandant de bord Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume.
Bonjour à tous, donc attachez vos ceintures jusqu'à ce que le signal s'éteigne.
On accroche nos ceintures et on décolle, mais avant de décoller et avant de nous envoler dans les nuages de l'actu, un petit rappel indispensable, c'est celui du financement participatif de Tech Café sur Patreon, l'adresse patreon.com/techcafé. Le principe est simple, vous pouvez participer à chaque émission avec un montant à partir de 1 euro et vous pouvez évidemment mettre un petit peu plus si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi plafonner votre participation, la suspendre à tout moment, il n'y a pas d'engagement sur le long terme. En tout cas, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi de soutenir l'émission et merci en particulier à Sylvain, à Aurélien Delval, à Yannick Boss et Julien Garcia qui a même réévalué son engagement à la hausse. Un petit mot d'actu Tech Café avant d'enchaîner sur les news. On a lancé une première version de la newsletter. Alors, certains d'entre vous reçoivent Tech Café en notification automatique par mail quand l'émission est en ligne, c'est une chose. Mais je vous invite à aller sur techcafé.fr et aller vous abonner à la newsletter. Vous avez le lien dans toutes les pages des articles qui accompagnent les publications des épisodes parce qu'on va vous envoyer des petits emails en plus en veille de week-end avec des compléments d'actu, des éléments qu'on a dans notre veille et qu'on voulait vous partager. Et puis, si jamais vous l'avez déjà reçu, si jamais vous recevez une nouvelle édition, faites-nous vos retours et dites-nous un petit peu quelle complémentarité vous avez avec l'envoi de l'épisode en automatique par mail. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de recevoir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Faites-nous part de vos avis pour qu'on voit un petit peu comment mieux orienter les choses. Et puis, ultime recommandation, avant de passer à l'actu à chaud, commentez, s'il vous plaît, l'épisode sur le web, notamment pour l'épisode de Tech Café Domotique qui est sorti à l'occasion du Black Friday. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en privé, alors que ce soit par les réseaux sociaux ou par le formulaire de contact. Et c'est très chouette de votre part et je vous remercie évidemment de tous les retours. Mais faites-le plutôt dans les commentaires de techcafé.fr. Il y a plein d'avantages à ça. Je me suis un petit peu exprimé sur mon blog sur le sujet, sur guillaumevendée.fr. Mais il y a plein d'avantages à aller déposer le commentaire si évidemment les propos que vous tenez ont lieu à être exposés au grand public. Merci évidemment par avance de la petite démarche que vous faites à ce sujet. Allez, l'actu à chaud, sans autre forme de procès, Guillaume, c'est la COP25 là qui démarre. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la COP25, peut-être que la COP21 vous parle un peu plus. C'est un rendez-vous où des grands acteurs essayent de se mettre d'accord pour comment faire en sorte de moins bousiller la planète, ou en tout cas de la bousiller moins que ce qui était prévu. Hein. Je ne sais pas si mon résumé est très sérieux, mais en tout cas je pense qu'il résume bien la démarche globale. Le slogan de la 25e réunion donc annuelle, c'est Time for Action, là, sur cette édition pour le climat. Et c'est l'occasion de faire un petit état des lieux. 127 pays ne respectent pas les engagements et les objectifs visés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les 127, il y a des très gros, des qui pèsent très très lourd, comme la Chine, les États-Unis et l'Inde, qui sont les principaux émetteurs. Et puis, il y a même d'autres pays, hein, dont la Russie, l'Iran qui ne sont toujours pas engagés pour l'instant. Et en fait, finalement, quand on fait le panorama des pays qui se sont engagés sur les objectifs de la COP21 et qui respectent un petit peu leurs engagements, finalement on a surtout les pays européens, paradoxalement, et pas beaucoup d'autres, donc ça sent pas forcément très très bon sur les orientations pour le climat. Les émissions de gaz à effet de serre sont même reparties à la hausse aux États-Unis. On le sait, hein, Donald Trump a sorti les États-Unis des engagements de la COP21, des accords de Paris. Les émissions de gaz à effet de serre chinois augmentent énormément. Ils ont augmenté de 80% entre 2005 et 2018 et leur progression devrait durer au moins jusqu'en 2030 d'après les études qui sont faites. Autant dire qu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et du coup, les États sont pas forcément à même de suivre les engagements qui sont demandés et qui ont été ratifiés. Et du coup, à l'inverse, eh ben, on voit quand même, hein, c'est un petit mot de positif par rapport à ça, même si on attend un petit peu la portée, pour dire que les grands responsables de grandes entreprises de la tech, dont Satya Nadella, dont Tim Cook, dont Sundar Pichai, Jimmy Rometty, qui est le CEO d'IBM, et Elon Musk, qu'on ne présente pas, qui, eux, s'engagent et affirment que eux de leur côté ils vont tenir les engagements au maximum. Il y a même évidemment des grandes entreprises françaises qui sont présentes à l'international, Decathlon, Kering pour ne pas les citer. Il y a un absent, c'est Amazon. Guillaume, ça pue pour le climat ?
Oui, bah c'est fucké, hein. C'est pas très difficile de voir qu'il n'y a pas vraiment de voyant vert. Hein. Je crois qu'ils clignotent tous soit en rouge, soit en rouge foncé à peu près. Donc ouais, c'est un peu dommage. Alors oui, c'est vrai que c'est bien quand même que les grandes entreprises prennent le relais un petit peu des États défaillants, enfin surtout aux États-Unis, mais et en Chine peut-être. Enfin la Chine, c'est vrai que ça va être difficile. Mais bon, enfin il n'y a pas que la Chine. Après, je pense qu'il y a aussi l'Inde, l'Afrique, oui. Enfin tous les pays émergents. Je pense que ça va être très très compliqué hein, dans les années qui viennent. Bon, alors c'est très bien tout ça, hein, je veux dire, mais je trouve qu'il y a toujours un petit peu de schizophrénie quand des grandes entreprises s'engagent pour le climat, alors que bon, leur business c'est quand même, enfin je veux dire, leur business c'est quand même de vendre des trucs, quoi. Hein. Apple s'engage pour le climat, c'est très bien, il dit oui, l'humanité n'a jamais fait face à une menace plus urgente que le changement climatique. Bon, ben ok, très bien, c'est super, hein, mais bon, ton business c'est quand même de vendre des téléphones, quoi, avec tout ce que ça suppose pour leur fabrication, leur transport, leur cycle de vie, leur recyclage, etc., etc. Donc on a un petit peu de mal, si tu veux, à être vraiment optimiste, parce que c'est vrai que si les seules entités puissantes à défendre le climat sont celles dont la survie dépend du fait que tu achètes des trucs très régulièrement et de plus en plus, et je veux dire, bon, c'est pareil pour Microsoft, hein. Microsoft, ils fabriquent aussi des trucs qui vendent, ils fabriquent des logiciels, bon, tu me diras, ça c'est à peu près dématérialisé, mais Microsoft, c'est aussi des data centers, c'est toujours plus de data centers, toujours des data centers plus gros. Google, ils vendent ses pixels. Google, c'est aussi toujours des data centers plus gros. Je veux dire, c'est très bien que Google essaie de devenir vert en utilisant préférentiellement des énergies propres ou en compensant ses émissions carbone d'une autre manière. Bon, c'est un autre sujet, mais bon. Cela dit, je veux dire, YouTube, son but, c'est quand même que tu regardes le plus de vidéos possible. Hein. Or, une vidéo de chaton qui ne pollue pas, c'est une vidéo de chaton pas regardée. Hein. Faut bien qu'on se le dise, hein, malheureusement, pour les chatons.
C'est clair.
Quoi.
Ouais.
Donc, c'est compliqué, si tu veux. C'est vrai que ça... Oui, ça encourage pas vraiment, tu vois, ce genre de truc, ce genre de news, ça encourage pas vraiment, en particulier celle sur la COP25, là, de ce dont tu parlais, les chiffres dont tu parlais, c'est vrai que ça, voilà, c'est pas très, ça donne pas beaucoup d'espoir, malheureusement, mais bon, j'espère vivement avoir tort.
Recommandation tech, probablement que le smartphone le plus écologique que vous allez pouvoir utiliser demain, c'est celui que vous avez déjà entre les mains, et peut-être que ça vaut le coup de freiner un peu la conso. J'ai vu Ming-Chi Kuo, tu sais qu'il y a d'autres rumeurs qui émanent de Ming-Chi Kuo, qui est bien renseigné sur ce qui va être proposé par Apple dans les années à venir, qui nous indiquerait qu'Apple passerait même à un rythme de 2 mises à jour majeures par an à partir de 2021, donc on voit que la tendance n'est pas prête de s'inverser. De ton côté, t'as identifié une autre news à chaud juste avant qu'on balaye nos news, notamment celles autour de la tech et de la géopolitique, qui fait peut-être un petit peu froid dans le dos aussi pour les possesseurs d'Android, Guillaume.
Oui, c'est une vulnérabilité importante qui a été découverte et qu'on sait exploiter activement, hein, et ça dans toutes les versions d'Android. Ça a été découvert par Promon à la suite de la plainte d'une banque tchèque. Donc c'est une fonctionnalité du multitâche sous Android, alors une fonctionnalité qui pourrait s'apparenter à un bug, c'est entre bug et feature, des fois c'est pas clair, mais en tout cas ça permet à des applications de se faire passer pour d'autres, et donc ça s'appelle Strandhog, et le processus est le suivant. Donc t'ouvres une appli connue, que tu connais bien, Facebook, YouTube, ou je sais pas, et là il y a un pop-up d'autorisation qui apparaît. des autorisations pas délirantes forcément pour l'appli en question, en l'occurrence. Donc tu dis oui, et hop, t'es fait, ça y est. Parce que dans l'hypothèse d'une infection, tu viens peut-être de donner des autorisations à une autre appli que celle que tu as lancée. Il y a au moins 36 applis à l'apparence bénigne sur l'App Store, hein, qui, sur Google Play, qui charge en fait ensuite un malware, donc de manière cachée, et qui intercepte après l'appel à une appli tierce, et une appli connue, et qui demande des autorisations à sa place. Et s'il les obtient, c'est cuit. Il peut faire ce qu'il veut. Alors Google est au courant, les applis en question sont plus disponibles, mais Dieu sait combien circulent aussi sur les circuits parallèles, hein, donc ce qui doit vous alerter, c'est si une appli à laquelle tu as déjà donné des autorisations en redemande, c'est bizarre. Si jamais la pop-up est un peu louche avec des coquilles, ou si elle a pas de nom, si y a un format qui colle pas trop, si le bouton back il marche pas comme on s'y attendrait, parce qu'effectivement c'est pas la même appli, donc ça pourrait pas marcher, si des éléments d'interface réagissent pas alors qu'ils devraient, tu vois, ou voilà des apps qui demandent des permissions sans rapport avec ce qu'elles font, bien entendu, toujours ça, c'est des signaux comme ça auxquels il faut être attentif pour essayer d'éviter ce genre de problème.
Et puis, et donc tu dis c'est des apps qui sont présentes sur le Play Store ou c'est des apps installées tierces, des APK qu'on télécharge, où on n'a pas de connaissance de leur
gilet ? Les deux, mais il y en avait 36, on en connaissait 36 sur le Google Play déjà.
Surveiller. Bah, merci de ton avertissement. On va redoubler d'attention, en tout cas, quand on donne les autorisations. Et on va commencer avec la première vraie rubrique tech de cet épisode, où on va vous parler de géopolitique, évidemment sous l'angle de la tech. Un premier sujet qui est arrivé, qui fait un peu polémique et qui a fait moins polémique dans un second temps, c'est celle qui décrit la manière dont est traitée la Crimée dans le service Apple Maps. Vous avez compris, c'est le service de cartographie des appareils à la pomme. Et la Crimée, qui est ce pays qui a été annexé hein, par la Russie, était jusque-là dans une situation un peu transitoire et il n'était pas clairement identifié comme étant rattaché ni d'ailleurs à la Russie ni à l'Ukraine. Depuis, là, on a vu des changements et la Crimée est maintenant plus clairement rattachée à la Russie si on regarde Apple Maps depuis la Russie. Donc c'est là où on a une première info qui s'est un peu viralisé et qui a été un petit peu remise en contexte dans un second temps. Apple est pas très très fier, hein, je crois, sur ce sujet-là. Ils ont pris la parole. Pour autant, ils proposent le service en Russie et la loi russe est très claire. Hein, ils doivent montrer que, en gros, la Crimée fait partie de la Russie. Finalement, j'ai un petit peu de mal à ne pas incriminer Apple sur le fait qu'ils respectent la loi en Russie quand ils sont en Russie et que sur le reste du monde ils continuent à afficher quelque chose qui soit un petit peu plus subtil en termes d'affichage et évidemment c'est des sujets assez difficiles à traiter pour des relations géopolitiques. Est-ce que tu penses qu'ils avaient le choix de faire autrement, Guillaume?
Ben non, s'ils veulent rester... Non,
mais de la façon, question à laquelle on ne peut pas répondre oui.
Je veux dire, Apple sans doute effectivement fait pas ça avec plaisir, je veux dire, hein, mais il y a un choix, c'est soit tu obéis aux lois du pays pour rester déployé dans le pays, soit tu te barres. Donc voilà, ce qui est dans la balance, c'est juste ça, quoi. Hein. À mon avis, il ne faut pas aller chercher plus loin. Bon, comme on en avait déjà parlé, je veux dire, Apple, c'est une boîte qui est tout à fait pragmatique. Hein. Et donc, il faut faire comme ça, on fait comme ça.
Sinon, ils vendent plus d'iPhone en Russie. Et je pense qu'ils sont pas encore prêts à ça. Intel a fait un mouvement assez intéressant. Il se tourne vers Taïwan pour notamment le développement, la certification et le support de la 5G pour des modems, Guillaume.
Ouais, c'est bizarre, mais après, ça vient de Qualcomm. Qualcomm, on en a déjà parlé plein de fois, hein, s'il a des pratiques commerciales un petit peu agressives, en gros, il n'aime pas la concurrence, quoi. Hein. Il demande à ses clients de signer des clauses que d'aucuns, comme Apple, trouvent un petit peu abusives. D'ailleurs, la procédure de ce dernier est loin d'être terminée, hein, parce qu'il est loin d'être le seul à se plaindre. Dernièrement, c'est un groupe de fabricants automobiles, hein, Ford, General Motors, Toyota, etc., qui attaque Qualcomm pour abus de position dominante. Si ça continue, disent-ils, le prix des appareils 5G, voitures comprises, pourrait être largement plus élevé du seul fait de Qualcomm. Il y a Continental et Denso, il y a deux fabricants de solutions infotainment, là, tu vois, de localisation, qui ont dû renoncer à travailler avec Samsung ou MediaTek, par peur des représailles, tellement les contrats avec Qualcomm sont contraignants. Donc dans cette histoire, tous les acteurs ont un allié de poids, d'ailleurs, tous ces acteurs-là, enfin en tout cas tous ceux qui attaquent à Qualcomm ont un allié de poids qui s'appelle Intel. Parce que lui, il indique quand même qu'il a été forcé hors du marché des smartphones à cause des pratiques anticoncurrentielles de Qualcomm, hein, et on se souvient qu'Apple travaillait avec Intel, mais qu'il a finalement trouvé un arrangement, entre guillemets, avec Qualcomm qui a dû évincer Intel. du coup, lequel a vendu sa division à Apple, et d'après lui, il l'a vendu à perte, des milliards de pertes. En fait, la transaction, elle s'est élevée à peu près un milliard de dollars, mais ça sous-entend que la division a coûté bien plus cher à mettre en place, ce qui est tout à fait possible, en fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation assez ubuesque, hein, où, pour rester dans le game de la 5G, ben, Intel doit se tourner vers des prestataires extérieurs. Et donc, il a conclu un accord avec le Taïwanais MediaTek. Il n'est pas conclu d'accord avec les Chinois, c'est pas le moment. Donc, lequel vient de dévoiler son dernier, d'ailleurs, MediaTek vient de dévoiler son Dimensity 1000, qui est donc sa dernière puce équipée 5G, et qui d'ailleurs tiendrait largement la tête au 990 de Huawei et au 855 de Qualcomm. Et donc voilà, c'est bon. Bizarrement, Intel se réserve le droit d'intervenir beaucoup en fait dans le développement du modem, alors que bon, MediaTek en a déjà un qui est tout prêt, mais il veut une flexibilité. C'est une flexibilité qui probablement explique d'ailleurs le choix de cet acteur qui est un petit peu plus petit par rapport à Samsung par exemple, parce que c'est les gros comme Samsung et Qualcomm évidemment vont pas te laisser patouiller trop profond dans tes designs, quoi, tu vois. Donc voilà, je suppose que MediaTek va in fine faire le composant, hein, mais Intel va s'occuper de l'intégration, du soft, de tout le produit final. En fait, ça devrait arriver vers 2021, donc Intel est partenaire de MediaTek. C'est assez inattendu.
C'est la petite surprise du moment qu'aurait fait un morceau de chronique des composants, mais pour une chronique des composants, restez abonnés au flux d'Attaque Café pour en savoir un petit peu plus dans les jours à venir. Un mouvement en direction de la Suisse aussi, le pays de la neutralité, Guillaume.
Oui, ben oui, parce qu'il y a un acteur qu'on commence à connaître un petit peu qui s'appelle RISC-V. Alors RISC, c'est donc un design CPU. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce design CPU? C'est qu'il est open source, donc tout le monde peut l'utiliser sans rien payer. Et c'est pas évident, puisque évidemment, si vous voulez fabriquer un processeur aujourd'hui, un microprocesseur à foutre dans n'importe où, hein, dans un téléphone, dans un ordinateur ou dans une montre, vous devez licencier, vous devez payer ARM par exemple, ou payer Intel, ou payer AMD, ou qui sais-je. Bon. Là, avec RISC, vous pouvez fabriquer votre propre design, faites votre propre puce, et puis après vous pouvez demander à quelqu'un de la fondre, etc. Donc c'est vraiment intéressant, parce que c'est l'open source, mais au niveau des composants, quoi. Alors jusqu'à présent, RISC était enregistré dans le Delaware, aux États-Unis. Et là, ils vont partir et s'incorporer, enfin s'enregistrer en Suisse. Pourquoi ? Ben tout simplement
pourquoi
parce
la Suisse ?
Pourquoi
pour
la
le
Suisse ?
Chocolat.
Pour le chocolat, bien sûr, exactement. Non, le problème, c'est que les membres platinum de la fondation RISC-V, il y a Nvidia, Qualcomm, Western Digital, Google, mais il y a aussi Huawei, Alibaba. Tu vois le problème? Tu vois comment, tu vois pointer le problème? Et en fait, les gens de la fondation RISC, eh ben, ils ont peur des retombées géopolitiques de cette guerre commerciale avec les Chinois. Et ils ont peur que les États-Unis décident un jour d'interdire RISC-V, qui est donc dans le Delaware, de faire affaire avec des Chinois. Or, c'est un truc ouvert, tu vois. Donc, par essence, ils aiment pas ce genre de menaces, et donc ils sont partis, voilà. Ils seront beaucoup plus tranquilles quand ils seront en Suisse. Donc voilà. Alors c'est une décision qui a été prise apparemment fin 2018, donc c'est pas nouveau, mais clairement c'est pour se mettre à l'abri des turbulences géopolitiques actuelles, quoi.
Ouais, c'est quand même dingue de voir les portées de cet acte, hein, qui on a suivi au fil des épisodes de la part de.
C'est très significatif, parce que c'est quand même une idée que les États-Unis ne sont plus le meilleur endroit pour l'open source.
Exactement.
Et ça, c'est quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est lourd de conséquences. Et je suis pas certain que en avançant, bon, de là à dire que rien n'est réfléchi, ce serait un peu abusé, mais je suis vraiment pas certain que des mouvements tels que ceux qui ont été mis en place de bloquer comme ça de la commercialisation de technologies américaines avec des acteurs chinois, et ben que cette initiative ait eu dans sa ligne de mire ce type de conséquences. Et pourtant, je pense que maintenant la machine est lancée et ça va pas être simple de l'arrêter. Donc c'est hyper intéressant. On enchaîne avec une autre rubrique. Plus avec un angle un peu terrorisme, un peu voire beaucoup pour cette première news, puisqu'on va parler de l'organe de propagande de Daesh. Donc c'est vrai que l'État islamique, je pense qu'il a perdu du terrain au fil de ces derniers mois, et probablement qu'il perd de l'ampleur, mais il perd pas que de l'ampleur sur le sol, sur son territoire, mais il perd aussi de la place sur le terrain du numérique, du web, parce que il y a une action là qui a été menée assez d'envergure, dans laquelle ont pris part plusieurs États, sous le couvert d'Europol, en tout cas pour l'Europe, mais pas que, mais aussi avec la participation de plusieurs entreprises comme Google, Twitter et d'autres. Mais il y a eu aussi Telegram qui a été assez central, je crois, dans la participation de cette action. En gros, ils ont annoncé à la suite de ces actions que pour eux, en gros, l'agence de propagande de l'État islamique, Hamak, avait été un peu éradiqué d'Internet. A priori, c'est la Belgique aussi qui a pas mal agi comme chef d'orchestre. Une arrestation a eu lieu en Belgique pour une personne qui était soupçonnée de faire partie des principaux diffuseurs de cet organe, notamment en Europe. Donc voilà, pour l'instant, ils estiment, eux, que Daesh n'est plus présent sur Internet. Et évidemment, on va voir, parce qu'ils savent que ça peut arriver, ils vont voir à quelle vitesse ils vont revenir. On sait que c'est le jeu du chat et de la souris, hein, mais c'est quelque chose qui peut faire date, en tout cas, dans la lutte contre la cyberpropagande de Daesh. Plutôt bonne nouvelle, Guillaume, non ?
Bien sûr, mais surtout, ça montre que, oui, bah, quand on collabore, si tu veux, quand tous les pays européens collaborent et que les boîtes collaborent aussi, puisque Telegram, effectivement, a collaboré, hein, ça peut marcher, quoi. 25 000 contenus ont été virés. C'est vrai que la présence de la propagande d'Amac a très, très nettement baissé, du coup, sur Telegram et un peu ailleurs. Et bon, alors même si c'est forcément... être un petit peu éphémère, c'est quand même toujours forcément une super nouvelle.
Alors, de notre point de vue, sous notre angle de vision, évidemment, on va, je pense, assez vite tomber d'accord sur le fait que cette menace de terrorisme est assez évidente et qu'on ne peut que se satisfaire de cette action. Mais en Chine, c'est pas forcément l'État islamique, évidemment, qui est considéré comme terroriste, mais d'autres populations dont on a déjà parlé dans Tech Café de par les rebondissements que ça peut avoir dans l'actu tech, ce sont les Ouïghours, la communauté Ouïghour qui fait l'objet de gros mouvements de ségrégation. Et en l'occurrence, là, on a une personne qui a pris la parole sur TikTok, c'est une adolescente qui s'appelle Feroza Aziz et qui a fait un truc très malin. Elle a diffusé une vidéo sur TikTok où elle fait mine, comme beaucoup d'adolescentes, de faire du maquillage. Donc elle explique comment se recourber les cils. Au début, ça m'a fait peur, d'ailleurs. Je suis pas habitué à voir une fille se recourber les cils comme ça devant moi, ça m'a fait peur. Mais en fait, j'ai compris que c'était quand même que du maquillage. Sauf que quand on écoute ce qu'elle dit, évidemment, elle prend la défense du peuple ouïghour et elle dénonce les actions qui sont menées par la Chine à destination de cette population. Et la vidéo a été retirée. Elle a été retirée par TikTok. Alors, TikTok s'en est un petit peu défendu, je trouve, assez maladroitement. En tout cas, ce qui semble avoir été problématique, c'est que elle avait pris la parole sur son compte, mais avec un autre smartphone, avant cette vidéo, avec des sujets qui tombaient sous le coup de sujets qui peuvent être sujets à la modération par TikTok. Et elle a rediffusé ça derrière, et comme par hasard, cette vidéo a été retirée. Ça a fait... un peu un bad buzz qui a ramené TikTok à devoir republier la vidéo au bout d'une heure, donc ça a été assez rapide. Pour autant, ça montre deux choses. Ça montre que TikTok est un vecteur désormais de messages à vocation politique et qu'en même temps, ça pourrait très bien être un canal qui pourrait faire l'objet de censure, avoir évidemment la portée que ça pourrait avoir, parce qu'on l'a vu dans ce cas-là, ça a été très très vite visible.
Et c'est vrai que ce problème ouïghour, là, c'est quand même complexe. Pour rester dans le sujet, là, tout dernièrement, il y a eu les China Cables. Je sais pas si t'as vu ce truc-là. C'est un petit peu comme un Panama Papers. C'est une fuite de documents secrets du gouvernement chinois à destination des gestionnaires du camp de détention de Xinjiang. Ces documents qui ont été obtenus par l'ICIJ, donc c'est le Consortium International du Journalisme d'Investigation. Qui aurait donc certifié par des experts l'authenticité de ce truc-là. Il y a même un linguiste qui a validé le langage employé comme étant conforme au style des documents classifiés. Donc c'est bien ronflant et chiant comme il faut, donc pardon, ça a l'air... je savais pas que c'était une manière de valider des documents, mais bon... c'est le style est vraiment horrible. Non, ça doit être un document administratif authentique, il n'y a pas de problème.
c'est crédible, c'est chiant.
C'est crédible, je me suis endormi dessus, c'est crédible. Et donc bref, ce document explique comment bien gérer les Ouïghours récalcitrants et garder le secret absolu sur l'existence même du camp d'ailleurs. Le document est super détaillé, il date de 2017 et il montre l'existence d'un système de gestion algorithmique de la dissidence un petit peu. Alors la Chine dément, évidemment. Elle assure que tout ça, c'est qu'une fake news. La Chine met à disposition des institutions où les Ouïghours pourraient apprendre le mandarin, se former à la culture chinoise, et voilà, c'est tout. Et bon, il y a quand même une masse de témoignages aussi, par ailleurs, sur la surveillance ultra étroite de la population, à base de caméras partout, de reconnaissance faciale généralisée, de drones et d'applications obligatoires sur les téléphones, on en a parlé pas mal. C'est un petit peu inquiétant, on les a relayés, donc, et les China Cable rajoutent des informations sur l'IJOP. C'est le Integrated Joint Operation Platform, et pour simplifier, ça pourrait s'appeler Orwell Operating System, quoi. Parce que l'IJOP, là, ça agrège en temps réel toutes les infos disponibles via tout ce que j'ai cité, et plus encore, c'est-à-dire Ils peuvent sniffer le Wi-Fi, ils peuvent vérifier la consommation électrique des maisons et même les bordereaux de livraison. Et tout ça, ça utilise des algorithmes de deep learning pour faire du pre-crime, tout simplement. Alors on en a parlé déjà, le pre-crime à base de deep learning, ça a même été testé aux États-Unis et en Angleterre. Et tu arrêtes les gens préemptivement. Et en masse, puisqu'en juin 2017, 24 000 personnes ont été flaguées et presque 16 000 ont été arrêtées. Alors la différence, ça c'est pas parce que finalement il y a un humain qui a modéré l'algo, hein, non, c'est parce qu'on n'a pas réussi à tous les localiser en fait, hein, ou que certains sont morts. Donc le jugement de l'algo en fait se substitue au jugement humain. Voilà, donc demain l'algo pourrait décréter que t'es pas net, hein, sur une base qui en fait est pas toujours claire, voire jamais en fait, hein, avec les algos de deep learning, on sait que c'est quand même plutôt des boîtes noires. Donc limite tu peux même pas toi-même être sûr que tu risques rien, donc je te laisse imaginer l'ambiance que ça donne, tu vois. Et voilà, et bon, évidemment, ça s'étend aussi en dehors des frontières, puisque les Ouïghours sont à l'étranger, sont aussi monitorés, et le cas échéant, d'ailleurs, ils sont cueillis à leur retour, comme ça, passage à la frontière. Alors, officiellement, tout ça, c'est pour éradiquer, effectivement, les idéologies extrêmes et le terrorisme, hein. Mais là, c'est vrai que ça va quand même très, très, très loin.
Ben, ça va tellement loin qu'a priori, la crainte de la Chine s'étend jusqu'au deepfake, a priori, et ils ont carrément en passe de les interdire, les deepfakes, Guillaume.
Oui, bon, ça, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que ça se rejoint. Tu te souviens de Zao, d'ailleurs, on avait parlé cet été, je crois. C'était une appli de deepfake grand public, hein, qui te permettait de t'insérer dans un film ou une série. Elle a fait un carton en Chine, évidemment, et elle a suscité de grosses inquiétudes. Hein. Il y avait la collecte excessive de données, mais il y avait aussi la perspective vague, hein, que ce type de technologie pourrait être employé pour hacker la sacro-sainte reconnaissance faciale, utilisée et même surutilisée dans le pays. Enfin, on parle de la Chine, mais évidemment, c'est pas qu'en Chine. Hein. D'ailleurs, la semaine dernière, la sécurité intérieure américaine a demandé à étendre la reconnaissance faciale dans les aéroports pour tout le monde, y compris les citoyens américains, qui étaient jusqu'ici exemptés. Hein. Donc, voilà. C'est évidemment un gros débat, hein, puisqu'à l'opposé, la ville de Portland, en Oregon, veut interdire l'usage de la reconnaissance faciale. Donc, il y a quand même une grosse controverse. Mais pas en Chine. En Chine, il n'y a pas de grosses controverses. Hein. Désormais, pour souscrire un abonnement téléphonique, il faudra non seulement une pièce d'identité, mais un scan de ta face. Comme ça, le fournisseur d'accès et le gouvernement et les pirates qui mettront la main sur les données un jour sauront aussi à quoi tu ressembles, en plus de ton adresse, etc., de toutes tes infos. Donc en Chine, il n'y a plus vraiment de place pour une identité en ligne distincte de ton identité réelle, tu vois. Et la possibilité de te reconnaître via ton visage, c'est considéré comme un enjeu de sécurité nationale. Tout ce qui peut mettre en danger le mécanisme est donc considéré avec beaucoup de sérieux, et en l'occurrence, ben voilà, là, le deepfake aussi. Alors, c'était pas fondé pour Zao, hein, mais le CAC, le Cyberspace Administration of China, et oui, ça se demande pas, c'est le bureau de gestion du cyberespace chinois, donc interdit désormais toute utilisation de la technologie de deepfake ou de réalité virtuelle qui ne soit pas explicite. Réalité virtuelle, je suppose qu'ils veulent parler d'avatar virtuel, de modèle 3D, hein, ou ce genre de truc, je suppose. Mmh. Donc si tu fais du deepfake, t'as intérêt à le dire et à l'écrire clairement à partir du 1er janvier prochain, sinon ça pourrait être considéré comme une tentative de hacker le système, et ça c'est très très mal pour les Chinois.
En même temps, c'est compliqué aussi, j'imagine, il y a une certaine cohérence en tout cas dans les actes de Chine par rapport au comportement en ligne. Du coup, je suis pas très surpris effectivement qu'ils aillent jusqu'à ce type d'interdiction. C'est quand même un climat qui reste très très curieux, la Chine, quand on observe un petit peu ce qui se passe dans le monde de la tech et dans le monde tout court. Je reste marqué, pour revenir un tout petit peu, hein, sur ce qui se passe auprès des Ouïghours. Je sais pas dans quel article je l'ai vu, mais c'était la vidéo du reportage de la BBC sur les écoles qui amènent les populations ouïghours, les populations musulmanes, à être à nouveau endoctrinées par rapport au respect du parti. Certains sont emmenés là-bas simplement parce qu'ils ont l'application WhatsApp sur leur smartphone, donc on sent que ça va loin. Et c'est incroyable de voir à la fois la fébrilité de la Chine sur tous ces sujets-là, qui correspond à des vraies peurs culturelle, j'ai l'impression, et qui se manifeste sans aucune réserve, avec une forme de dissimulation, parce qu'on voit pas toutes ces actions, notamment de réorientation, et je présente ça comme étant des écoles, mais a priori c'est une belle manière de les présenter, puisqu'il y a une forme de détention qui est associée. Donc que ce soit en tout cas de la reconnaissance, de la surveillance et de l'endoctrinement ou du réendoctrinement de populations chinoises, j'avoue qu'on est sur un univers qui est culturellement très très éloigné du nôtre, et qui moi m'inquiète vu de loin, et je sais pas si il y a grand monde ici à qui ça peut ne pas faire peur finalement. C'est une lecture un peu évidente d'en avoir peur de cette situation-là, Guillaume, ou est-ce qu'il y a des éléments quand même selon toi qui faut remettre en perspective d'une culture?
Alors oui, bah, c'est clairement quelque chose de profondément culturel, hein, parce que finalement il y a beaucoup de gens là-bas qui trouvent la plupart des mesures normales. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette sécurité, qui préfèrent. En fait, c'est toujours le même souci, hein. C'est l'équilibre liberté-sécurité qui est mis en balance là. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt du côté libéral, je suppose, qu'on est plutôt libéraux en Europe, alors que en Chine, le collectif et l'intérêt du collectif prime avant les individualités. Donc ça doit jouer, clairement, ça doit jouer. Après, il faut pas croire que en Chine, tout passe comme une lettre à la poste. Il y a plein de choses qui passent et qui passeraient pas ici, ça je pense que c'est certain. Cela dit, il y a aussi des gens qui gueulent parce que ils ont pas du tout envie d'avoir leur tête scannée lorsqu'ils doivent souscrire un abonnement téléphonique. Il y a des gens qui s'expriment quand même sur les réseaux sociaux là-bas en se demandant, mais pourquoi faire ? Je veux dire, le gouvernement a peur de quoi ? Tu vois, je veux dire, il y a aussi des prises de position du gouvernement qui passe pas forcément très bien pour tout le monde. Je pense que c'est assez compliqué. C'est vrai que moi, bon, je suis jamais allé en Chine. Hein, j'ai aucune idée de comment le vit le Chinois moyen, on va dire. Cela dit, voilà, il y a de tout. Il y a en Chine, il y a de la dissidence, même pas chez les Ouïghours, hein, je veux dire, il y a des dissidences, il y a des Chinois qui trouvent que c'est too much. Et puis, bon, bah voilà, il y a des Chinois qui s'accommodent de certaines choses et pas d'autres, quoi. C'est, voilà, il y a, pour des raisons historiques, culturelles, mais aussi parce que tout simplement, le gouvernement en place a un pouvoir qu'il entend bien maintenir de toutes les manières possibles. Et c'est vrai que la technologie, c'est devenu un outil majeur de cet autoritarisme chinois qui a toujours été là, plus ou moins.
Il serait facile de considérer ces news comme étant l'actu de la tech chez les méchants et chez nous, l'actu de la tech chez les, entre guillemets, gentils. Mais évidemment, il y a des éléments culturels profonds qui impactent ces situations-là. Et il faut les regarder avec beaucoup de recul, je pense. On continue avec une autre rubrique autour plus de la conso, mais de la conso qui choque. Enfin, vous allez voir qu'il y a plusieurs news qui tournent autour du sujet de la e-consommation. Une première info de Zalando, que vous connaissez peut-être bien pour son rôle de e-commerce, qui est une société allemande qui, alors ça va faire le lien avec les news précédentes, a mis en place un système d'évaluation des salariés par les salariés, donc c'est de l'évaluation de pair à pair, on va dire, et qui, en gros, amène à une situation de surveillance proche de celle qu'on peut décrire, c'est toujours facile hein, comme analogie, mais dans Black Mirror, Guillaume.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller en Chine hein, pour trouver un score social et une surveillance permanente. Hein. Il suffit d'aller en Allemagne, chez Zalando, c'est pareil. Puisqu'apparemment, tu es ranké en permanence par un logiciel qui s'appelle Zonar, qui est sans doute pas utilisé que par Zalando, hein, d'ailleurs, c'est même certain. Et donc, c'est un système très complet, quasi panoptique, de contrôle des performances. Et du coup, oui, le but, c'est que comme tu évalues en permanence et tu es évalué en permanence, ben, on peut pas dire que tu agisses avec le plus grand des naturels, on va dire. Et c'est vrai que ça donne globalement une ambiance de merde, parce que en plus, par-dessus, il y a évidemment la possibilité d'être ranké en low, good et top performer. Et bien entendu, pour être un top performer, faut être irréprochable, voire même, il faut peut-être donner des coups de petits coups de coude, parce que il semblerait que le système soit programmé pour qu'il y ait le moins possible de top performer, bizarrement. Et du coup, pour être top performer, peut-être qu'il faut être mieux noté, et donc au dépit, au mépris du score de quelqu'un d'autre. Donc c'est une ambiance de merde, c'est une ambiance délétère. Il y a des chercheurs qui clairement disent que ça génère du stress, que ça génère une ambiance pourrave.
Tu m'étonnes.
Et je vois pas très bien en quoi ce genre de connerie peut améliorer la productivité d'une entreprise. Mais bon, je ne suis pas RH, que veux-tu. Qu'est-ce que j'y connais ?
C'est ça, c'est que tu n'as pas toutes les connaissances des grands RH qui ont mis ça en place. Voilà. Oracle aussi, qui a une relation avec ses employés.
Oui, Oracle, c'est vraiment la meilleure boîte. Hein. Elle est tellement ouverte d'esprit, tellement tournée vers la créativité, la communauté. C'est... Non, je mens. Oracle, c'est quand même la boîte... Ouais, c'est la boîte. C'est une boîte qui attaque Google depuis 10 ans sur l'API Java et qui fait le forcing pour copyrighter les API et emmerder tous les développeurs du monde. Oracle, c'est la boîte qui a accueilli à bras ouverts Mark Hurd en 2010 comme co-président. Il est récemment décédé d'ailleurs, mais ça n'empêche pas d'avoir été le PDG de HP le plus détesté de toute l'histoire. Il a été lourdé par les actionnaires pour harcèlement sexuel et après avoir brûlé des fortunes pour entretenir sa maîtresse qui était modèle chez Playboy. Voilà, donc Oracle, c'est un éditeur de logiciels leader de la base de données, hein, dont en 2017, 60% des utilisateurs en France voudraient bien se passer. 140 boîtes françaises lui ont adressé une lettre ouverte pour exprimer le ras-le-bol massif de sa politique de licence. D'ailleurs, c'est pas qu'en France, hein, on dit que Jeff Bezos a repris 3 fois des moules et 2 fois du mousseux quand il a finalement migré ses 75 pétaoctets de données internes vers ses propres solutions. Et donc, aujourd'hui, je découvre qu'Oracle est aussi épinglé à de multiples reprises pour sous-payer les femmes et les minorités qu'il emploie, à poste égal, bien entendu. Mais bon, pas toutes les minorités en l'occurrence, hein, puisqu'entre 2013 et 2016, 90% de ses recrues techniques étaient des Asiatiques, et pendant plusieurs années, il n'a recruté aucun noir ni aucun hispanique. Ah, par contre, il a recruté beaucoup d'Indiens. Il y avait un système pour aérien, hein, un système pour faire venir des hommes indiens par charter entier, pour bien entendu les payer moins. Quant à l'emploi des femmes, par ailleurs, elles sont payées en moyenne $13,000 de moins à l'année, hein, je suppose, ou 13% de moins en bonus et 33% de moins en stock option. Donc Oracle fait aussi dans la discrimination d'âge, bien entendu. Mais bon, bref, le ministère du Travail a donc attaqué Oracle là-dessus, hein, plusieurs fois, et il a aussi évincé des appels d'offres pour les contrats publics, ça paraît logique. La réponse d'Oracle est tombée la semaine dernière, il attaque le ministère du Travail en justice pour abus de pouvoir. Voilà, une réponse écrite. La réponse écrite dit en substance ceci: quittez-toi d'abord pour me dire que je peux pas sous-payer qui je veux, et surtout, quittez pour me faire manquer des contrats, sale communiste. C'est une traduction libre, on veut dire. Voilà, et il poursuit par « C'est le triomphe de la bureaucratie qui paralyse les entrepreneurs, les forces vives du pays, moi je suis un bonhomme, tu me fais pas peur, ministère. » Voilà, vous allez voir en ronde de cuir ce que j'en fais de vos accusations. Bon, tiens, vous, je me les mets au bip. Donc, si Oracle disparaît un jour, je pense que je reprendrai 2 fois du mousseau.
Toujours dans la famille des scandales un peu, ou des comportements scandaleux, tu voulais nous parler un petit peu de ce qui se passe pour la eSIM. On va peut-être rappeler, la eSIM, c'est le fait de remplacer votre carte SIM qui est avec son petit plastique, hein, et son petit bout de métal et qui permet d'identifier votre ligne auprès de votre smartphone par une puce qui du coup peut être attachée à un opérateur. L'idée, elle est simple, c'est qu'on s'affranchit du petit morceau de plastique, donc ça fait ça de moins à gérer, ça fait ça de moins à perdre. Et puis surtout, ça facilite le changement d'opérateur parce que il suffit de se rendre sur son smartphone, par exemple, qui intègre la fonctionnalité eSIM, et de dire, tiens, je change d'opérateur. Alors bon, il y a des raisons contractuelles à changer, mais on n'a plus à passer par la phase de l'envoi par courrier postal de la petite carte en plastique. Ça, c'est la théorie, Guillaume.
Oui, parfois, il y a des choses qui prometteuses, hein, pourtant, qui partent en sucette. Hein. Regarde le trône de fer, ou l'OTAN. Bon, les eSIM, c'était censé faciliter la vie, donc effectivement, hein, et ouvrir de nouveaux horizons, tu vois, la possibilité de passer d'un réseau à un autre automatiquement, ou au moins de changer le prestataire en un clic. Mais bon, ça, c'est si le prestataire veut bien, évidemment, et souvent, ils veulent pas. Les eSIM sont loqués dans le terminal, et donc ça rend la situation pire qu'avec des SIM, parce qu'une SIM, tu peux l'enlever, et tu peux pas enlever une eSIM, hein, c'est un composant dans le truc. Et si le fournisseur décide de pas autoriser 2 réseaux, tu peux rien faire, alors que avoir double réseau, t'as fait ça toute ta vie sur ton téléphone dual SIM, quoi. Bon, c'est anti-concurrentiel, oui, c'est vrai. Mais le département de la justice américain jette l'éponge parce que le GSMA, qui est là, donc c'est la grosse asso des fournisseurs GSM en gros, qui, d'ailleurs c'est exactement ce que ça veut dire, est conscient qu'il y a un problème, hein, donc elle a changé les règles. Et donc il y a d'autres, ça autorise désormais des boîtes qui sont pas des fournisseurs d'accès à donner leur avis. Donc pas sûr que les fabricants de téléphones, par exemple, soient d'accord pour limiter les fonctionnalités de leurs terminaux. Donc il est possible que la situation s'arrange d'elle-même. Espérons-le.
On verra. Mais je me disais, finalement, on a déjà eu ce problème de SIM locker des smartphones sur un opérateur sans que ce soit la carte SIM qui soit verrouillée. Donc, finalement, est-ce que le débat n'est pas en train de revenir en arrière ? Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
On continue sur les scandales. Et puis alors, bon, il nous manque un mot-clé quand même dans les scandales. C'est Amazon. Et ils ont vécu une sale semaine, Amazon. Ils ont fait un cumul de bad buzz, Guillaume.
Ouais, on parle même pas du Black Friday. En fait, cette semaine, il y a une étude via Atlantic et Reveal qui a épinglé la sécurité dans les entrepôts Amazon. Depuis la livraison rapide par défaut, là, il semble que les canons se soient encore accélérés, et pour les manutentionnaires, quoi. Et en 2018, il y a quand même eu 9,6 blessures graves sur 100 employés. Donc c'est 2 fois la moyenne nationale. C'est ce qui a fait dire à The Register que c'est pour ça que Bezos veut envoyer toutes les industries lourdes dans l'espace, à terme, pour préserver la Terre, comme il l'a dit au San Diego Air and Space Museum, parce que dans l'espace, personne ne t'entend crier.
Dernier mot de type scandale dans l'univers de la commercialisation, cette fois-ci des gros véhicules. On avait parlé du pick-up de Tesla, le Cybertruck. Et il y a cette vidéo qu'on a vue passer sur les réseaux sociaux et dans les différents sites de news, qui voyait s'affronter un Cybertruck et un Ford F-150. Les deux étaient attachés par l'arrière et qui arrivait à tirer l'autre ? Eh bien, c'est le Cybertruck de Tesla, sauf que, a priori, l'explication est pas si simple. C'est pas que une histoire de puissance de véhicule, Guillaume.
C'est vrai que moi, j'avais vu la vidéo, je vais pas chercher plus que ça, très honnêtement. Mais bon, il y a plusieurs problèmes. Bon, d'une part, le premier problème, c'est que, apparemment, ça aurait été un Cybertruck haut de gamme contre un F-750 de base.
Parce que, pas du jeu.
Voilà, c'est ça. Donc, deux roues motrices et un moteur allégé. Contre un Tesla 4 roues motrices. Bon, évidemment, c'est pas du jeu. Bon, d'une part, il y a ça. D'autre part, il y a donc un physicien qui a dit aussi que c'est pas équitable parce que tout simplement les deux véhicules n'ont pas la même adhérence. Elles n'ont pas la même adhérence parce qu'il y en a une qui est lourde, qui est plus lourde que l'autre, en gros, globalement. Mmh. Donc apparemment, comme le Cybertruck donc est 4 roues motrices, et qu'il a les moteurs qui est près des roues, le moteur, tu n'as pas besoin d'avoir un moteur déporté, hein, tu as les moteurs directement sur les roues, quoi, en gros, si un véhicule électrique peut avoir le moteur sur les roues, quoi. Ben, du coup, il est très lourd au niveau des roues, et donc, il pèse lourd, donc il accroche très bien, hein, si tu veux, il est comme, tu as le... Évidemment, pour avoir de la puissance et tirer des trucs, ce qu'il faut non seulement de la puissance de moteur, mais il faut aussi de l'adhérence, forcément, sinon tu patines et ça marche pas. Donc pour avoir de l'adhérence, en gros, il faut être bien, bien accroché au sol, et donc si tu appuies plus, il y a plus de frottement, quoi, globalement, c'est aussi la force que tu mets dessus, ça augmente les frottements, et donc tu as plus d'adhérence, donc tu peux emporter des trucs plus lourds. Or, si tu as 4 bonnes grosses roues qui sont bien plaquées à terre parce que y a les moteurs dessus et donc c'est lourd à ce niveau-là. Alors que sur l'autre truc, t'as que 2 roues motrices, donc t'as forcément des roues qui sont plus légères à un niveau, t'as forcément un couple de roues qui est plus léger. Du coup, tu peux emporter le morceau plus facilement. Donc ça, c'est l'argument de Neil deGrasse Tyson. Bon. Apparemment, si tu veux, chez Tesla, ils se disent, bon, ok, c'est vrai, mais on va refaire le match, si vous voulez, ramenez le F-150 que vous voulez, on peut refaire le truc. Je sais pas si Ford va le refaire, apparemment, c'est pas parti pour. Bon, physiquement, évidemment, ce que dit Tyson est vrai, hein. Après, bon, que ce soit par design, je veux dire, pas que ce soit parce que la voiture est électrique ou pas, hein, je veux dire, si elle peut tracter plus, elle peut tracter plus, quoi, tu vois, si elle a plus d'adhérence, elle a plus d'adhérence. Mais donc, il aurait fallu, effectivement, pour avoir autant d'adhérence, charger à mort le F-150 pour qu'il ait la même prise au sol, quoi.
Bon, on refera peut-être le match, on verra si Ford est d'accord. En tout cas, il y a des acteurs qui n'attendent pas les résultats de ce match pour signer des chèques et commander des Cybertrucks.
C'est une ville au Mexique dont j'ai oublié le nom parce que je ne connais que Mexico, honte à moi. C'est San
moi
Luis
aussi,
Potosí.
Fait gros, c'est Mexico, voilà.
C'est horrible.
Non, nous, il n'y a que Mexico-Mexique. On va se faire jeter des petits cailloux.
Ouais, non, mais sûr, on est désolé, c'est vrai que, mais bon, c'est San Luis Potosí, et franchement, je connaissais pas du tout. Je sais peut-être d'ailleurs que Mexico, un jour, en prendra aussi, je sais pas, en tous les cas, c'est une ville mexicaine, et Dubaï, effectivement, qui veulent l'intégrer à leur flotte de véhicules de police. Apparemment, ça séduit beaucoup les policiers, bah oui, forcément, hein, c'est des véhicules qui sont puissants, qui sont très très robustes, et qui sont apparemment à l'épreuve des balles, en tout cas les moins grosses, donc c'est forcément un truc qui, automatiquement, attire l'attention des policiers. À tort ou à raison, je sais pas, mais en tous les cas, ça paraît logique.
Et je trouve ça plus beau comme véhicule de police que comme véhicule tout court. Donc, tu vois, ils ont presque réussi à me convaincre. On va continuer
à
parler.
Quand c'est peint avec toutes les décalcos dessus, tu pourrais trouver ça plus joli, toi.
Écoute, je sais pas quoi en penser de ce véhicule. J'arrive toujours pas à m'y faire. Je crois que plus je le vois, ce véhicule, plus je le trouve moche. Mais bon, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Et il en faut pour tous les usages. On continue à parler de shopping, mais là, une autre forme de shopping, c'est Michael Bloomberg, qui est dans la course à l'investiture pour les élections américaines, qui a acheté, alors lui, il n'a pas acheté un Cybertruck de Tesla, il n'a pas acheté un smartphone avec une eSIM, il a acheté des mots-clés, il a acheté des mots-clés sur Google pour se positionner, Guillaume.
Oui, on dit on parle beaucoup des publicités politiques ces derniers temps, c'est vrai qu'on imagine, bon, peut-être ça n'a pas tant d'influence que ça, ben, on verra bien, parce que Google n'a pas, lui, banni les publicités politiques, hein, il les a juste un peu restreintes au niveau du ciblage, et du coup, Mike Bloomberg, qui est 11e plus riche mec du monde, estimé avec une fausture estimée à 58 milliards de dollars quand même, et ben il a décidé de se lancer dans la campagne des primaires démocrates contre Trump, et donc ben, il va utiliser ça à tel point qu'il a acheté à peu près tous les mots qui se rattachent à climat et aux variations de climat, donc crise climatique, écroulement climatique. J'achète tout, absolument tout. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça marche bien. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais, aux États-Unis évidemment, puisque c'est quand même ciblé par zone géographique, quand tu fais une recherche sur climat, tu obtiens des pubs donc pour le parti, enfin pour Mike Bloomberg, voilà, pour donc voter, je suppose, pour Mike Bloomberg à la primaire. Il va aussi d'ailleurs, il a prévu de dépenser 100 millions de dollars dans des campagnes en ligne anti-Trump. Et c'est un mec qui est tellement riche, si tu veux, que il y a assez peu de trucs, quoi. Il y a assez peu de limites à ce qu'il peut faire. Et d'ailleurs, il a acheté 840 termes reliés au climat pour se relancer, et ça lui va lui coûter dans les 700 000 euros. Non, c'est monstrueux, je veux dire, c'est le mec, il vient à peine de partir, il a déjà pété 1 million d'euros quasiment, et c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va voir à quel point c'est efficace, et ça va aussi donner aussi une idée de à quel point le pognon est efficace dans la politique américaine.
Ouais, on va essayer d'y faire des corrélations, effectivement. L'achat média dans Google, c'est aussi l'achat dans Google Shopping, et à ce sujet, il y a 41 concurrents de Google européens qui ont pris la parole pour se plaindre de la situation qui était en place. En fait, Google a déjà été épinglé avec une grosse amende il y a de ça quelques années pour avoir privilégié Google Shopping des concurrents, des comparateurs de prix. On pourrait citer par exemple Idealo, qui est le deuxième plus grand comparateur de prix en Europe. Et tout le monde pointe du doigt ce problème, d'autant qu'ils ont déjà été épinglés. Ils ont tout simplement envoyé un mail au niveau de la Commission européenne pour se plaindre et afficher leur insatisfaction du fait que Google n'a pas du tout changé sa position, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le jugement. Est-ce que tu penses que Google va changer, Guillaume ?
Il sera peut-être obligé de changer si Verstager et compagnie se mettent dedans, je sais pas. C'est vrai qu'il a tendance de toute façon à mettre en bonne place ses propres gadgets, ses propres cadres, ses propres résultats par rapport aux résultats des concurrents. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire précisément, je sais pas trop. Je dois t'avouer que moi j'utilise assez peu ni Idealo, ni Google Shopping, ni personne.
Ce que je sais, c'est que tu fais forcément partie des personnes qui ont fait des bonnes affaires pendant le Black Friday, non ?
Absolument pas. J'ai rien acheté pour le Black Friday.
Alors tu ne fais pas partie de ceux qui ont dépensé au total 7,4 milliards de dollars de ventes en ligne pendant cette période. Donc la période comprend le vendredi 29, mais aussi la semaine qui intègre ce vendredi 29. C'est une étude qui a été menée par Adobe, qui a des éléments d'analyse avec Adobe Analytics sur notamment des sites de e-commerce. Ils ont analysé 1 trillion de visites sur plus de 4500 sites marchands, et ils en ont donné ce montant assez édifiant. Alors, je ne sais pas si tu as l'article ou si tu l'avais vu, Guillaume, dans les détails, mais est-ce que tu as en tête le top 5 des produits les plus achetés pendant le Black Friday, au passage ?
Ah, je suis en train de tricher, désolé, oui. Mais c'est vrai que, très honnêtement, j'y aurais pas pensé.
Alors, le premier, je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai cherché évidemment sur Google après. Donc, c'est le LOL Surprise Dolls, les poupées surprises LOL. J'ai découvert ça. Le premier, derrière, il y a les jouets de la licence Reine des Neiges 2. Il y a FIFA 2020 en troisième. Là aussi, ça m'a étonné. Madden 20, je sais même pas ce que c'est, je suis désolé. Et la Switch en cinquième position.
Ça dépend. Madden, c'est des statistiques, c'est pas français, donc oui, c'est les statistiques américaines. Madden
Oui, c'est un truc ça, c'est international.
Ah d'accord, oui, parce que c'est le football américain, donc si tu veux, ça m'étonne énormément, les Français achètent ça, quoi.
Et au point, ce Black Friday, que bah, y a des opinions un peu divergentes au sujet de ce mouvement de commercial, et il y a notamment des députés qui se sont prononcés et qui ont dénoncé le gaspillage que représente le Black Friday et qui veulent favoriser évidemment l'économie circulaire. Étant lieu probablement des volontés d'encadrer ces pratiques commerciales. Écoute, je sais que les soldes sont un sujet qui est encadré. Évidemment, le but, c'est d'éviter aussi, hein, je pense, les abus. Ils se servent et ils s'appuient sur une étude de l'UFC Que Choisir qui ne date pas de cette année, hein, mais sur laquelle ils s'appuyaient, je crois que c'était il y a 2 ans, qui indiquait qu'en gros, la moyenne des réductions effectivement pratiquées est inférieure à 2%. Alors effectivement, je pense qu'il y a des produits qui sont vachement bradés et puis des produits sur lesquels ils affichent des valeurs d'origine qui sont les prix conseillés par les fabricants, qui sont pas du tout ceux pratiqués par les commerçants, qui sont barrés et qui mettent des tarifs qu'ils ont l'habitude de présenter pour la commercialisation en ligne. Bon, en tout cas, tu fais pas partie des gens qui se sont fait avoir ou qui ont profité du Black Friday, Guillaume. Par contre, tu voulais nous relayer un rachat, deux rachats même, qui font date, a priori.
Oui, bah, si vous connaissez Project Cars, et donc vous connaissez peut-être aussi donc c'est ceux qui les fabriquent, hein, c'est Slightly Mad. Donc c'est une boîte anglaise qui bah, ils sont un petit peu foufou, hein, parce que déjà ils ont fait Project Cars 1 et 2 et c'est vrai que c'est des trucs assez foufou. C'est des simulations d'excellente qualité. Ils partaient de rien en fait, enfin ils partaient pas grand chose. C'est vrai que c'était assez fou et ils voulaient faire d'ailleurs une Madbox. Ils voulaient faire une console. Et oui, ils voulaient faire une console PC qui sera la plus puissante du monde, donc probablement du tonneau de la Xbox One X. Alors bon, ça a fait long feu, je pense, à cette histoire de Madbox, puisque là, ils vont se faire racheter par donc Codemaster. Codemaster, il faut aussi de la simulation automobile, un petit peu moins simu, un petit peu plus arcade. Mais bon, a priori, ça reste quand même des Anglais. Ils vont reprendre les 150 personnes de chez Slightly Mad, ils vont reprendre chez Codemasters. Bon, qu'est-ce que ça va donner pour la licence Project Cars? Aucune idée. Il y a des gens qui pensent que ça pourrait s'arcader un petit peu, ce qui serait dommage. Moi, je pense pas plus que ça. Project Cars 3 est probablement toujours en, donc c'est toujours pas, on sait toujours rien. Il y a eu Project Cars Go aussi, qui probablement va faire la transition. Donc bon, bah, c'est un rachat. Donc Slightly Mad disparaît quelque part et pour rejoindre Codemaster. Et il y a un deuxième rachat, puisqu'effectivement c'est la période des soldes, enfin en tout cas c'est la période des grosses emplettes. Facebook a acheté BitGame, donc le responsable de Beat Saber, le jeu de réalité virtuelle de rythme qui a un succès incroyable. Et bon, globalement, ça va rien changer puisque BitGame va rester très indépendant et donc a priori, Facebook va pas trop mettre son nez dans les mods, dans le modding pour Beat Saber, ce qui serait fortement dommage puisque ça fait partie évidemment des gros attraits du jeu.
Ben voilà pour la section rachat. On va enchaîner un petit peu avec une rubrique en vrac. On va commencer par relayer. Je sais pas si tu as vu passer cette étude de Médiamétrie sur l'audience de YouTube, Guillaume. Je sais pas si tu as vu ces chiffres passer récemment.
Ah non, pas du tout. Non.
Juste quelques mots à relayer, ça fait 77% de couverture puisque chaque mois 39 millions de Français majeurs regardent des vidéos sur YouTube, un chiffre assez dingue je trouve, avec une durée moyenne pour visionner les vidéos de 21 minutes chaque jour, donc ces personnes-là regardent 21 minutes en moyenne chaque jour YouTube, et pour référence la télé reste largement au-dessus avec 3h30 mais est en baisse, donc je sais pas si on va voir un jour la courbe qui va se croiser. En tout cas, on voit que c'est une tendance qui est très très forte. C'est intéressant d'ailleurs de voir que YouTube a envie de se positionner comme étant une alternative aux chaînes télé. Et de se positionner vraiment comme étant un secteur d'investissement média pour concurrencer tout simplement les chaînes de télé. Les jeunes sont évidemment très présents avec 46 minutes par jour en moyenne pour les 18-34 ans et du coup c'est un peu plus bas pour les 50 ans et plus mais seulement de 8 minutes et évidemment une consommation mobile qui se confirme, qui a souvent lieu d'ailleurs pendant les pubs télé et Et il y a un petit focus sur les thématiques de chaîne YouTube. Alors, je pense que ça va t'édifier sans doute, et toi qui es un grand fan, ça va te plaire. Mais savais-tu que l'ASMR, ça représente plus 300% de visionnage depuis 2016, que tout ce qui concerne ce qu'ils appellent les van life. Donc tu sais, c'est les personnes qui racontent leurs aventures en van, en caravane, et qui font des grandes épopées. On a fait un épisode de Relive sur le sujet. Il faut remonter le flux de Relive. Tu verras, on a interviewé un couple qui fait ça, un couple de Canadiens qui fait ça. Plus 180% de vues.
Mais tu vois, ils voyagent.
Ouais, ils voyagent et ils expliquent leur voyage. Et donc, en général, c'est des personnes qui continuent à travailler à distance et qui relatent ça sur YouTube. Ah, tu vas pas assez sur YouTube, Guillaume. Et peut-être que tu écoutes de la musique sur YouTube. C'est 76 millions de vidéos de musique vues par jour en France. Et ça a l'air d'être un chiffre qui est un petit peu moins communiqué par YouTube. D'aucuns supputent le fait qu'il y aurait des problèmes de droit concernant ces vidéos de musique, puisque toutes ne sont pas bien couverte sur le plan légal, donc ça nécessite un petit peu de creuser ça. 28% des audiences chaque jour sont constituées par les 50 ans et plus. Je trouvais ça énorme de mon côté, de me rendre compte qu'il y avait une bonne part quand même des gens qui regardaient YouTube pour à peu près 30% qui étaient de 50 ans et plus. Ça, c'est assez surprenant. Des chiffres à suivre, évidemment, parce que YouTube prend une place de plus en plus importante dans la consultation de vidéos. Un petit mot par analogie sur Facebook qui perd pour la première fois des utilisateurs en France. C'est historique, hein, c'est la première fois que ça arrive. Ils vont perdre des utilisateurs pour la première fois en 2019. Le nombre d'utilisateurs qui va baisser de 1%, de 1,3% exactement, et quand même redescendre à 27,6 millions. Ce qui reste un chiffre évidemment hyper important, mais ça y est, l'érosion commence, probablement au profit de d'autres médias dont Instagram. Pendant qu'on parle de Facebook, il y a une initiative assez surprenante que tu as vu passer, Guillaume, et qui, moi, me surprend. J'aurais pu penser à un 1er avril mal amené quand j'ai vu cette news.
Non, c'est un outil Facebook qui vient de sortir, qui permet donc de faire transiter tes photos de Facebook vers un autre service. Ça commence avec Google Photos, il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres donc, qui arrivent. Donc, comme tu peux télécharger effectivement tes données Facebook, ben là, tu vas pouvoir donc transporter tes données d'un service à l'autre. C'est plutôt cool, je pense, comme truc. Et c'est complètement en phase d'ailleurs avec la RGPD et ce genre de politique de portabilité des données, quoi. Donc, il faut saluer
ça. Oui, c'est pas juste une réponse à la loi, en fait, cette histoire par rapport à la loi européenne.
Et écoute, c'est possible, mais en tous les cas, je crois que c'est pour tout le monde. C'est ça qui est bien quand même. C'est pour le monde entier, j'ai l'impression. Ouais, donc c'est bien. Autant le saluer, évidemment.
Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement où d'ailleurs ces entreprises-là se sont mises d'accord pour faciliter ce genre de démarche. Après tout, c'est très très bien que les origines soient des contraintes légales du RGPD ou pas. Après tout, on prend. Twitter avait prévu de fermer un bon paquet de comptes inactifs, Guillaume.
Oui, si vous aviez des comptes inactifs, comme c'est mon cas d'ailleurs sur Twitter, ils auraient dû être dégagés dès le 26 novembre dernier. Mais en fait, ça a posé un problème, c'est qu'ils auraient aussi viré des comptes de gens décédés. Et c'est vrai que un compte inactif et un compte de quelqu'un qui est décédé, c'est pas la même manière. Donc ils réfléchissent à un moyen de sacraliser, mais enfin tu vois, de mémorialiser, comme ils disent, donc certains comptes avant de faire le ménage, ce qui permettrait effectivement de récupérer un certain nombre de usernames, qui ça serait quand même assez pratique. Ça ferait aussi probablement perdre pas mal de followers, pas mal de monde d'ailleurs, mais bon, ce serait quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ça concerne les Européens de toute façon pour le moment, cette histoire. Donc on verra bien ce que ça donne.
Mais est-ce qu'on doit continuer à laisser disponible le compte Twitter de Johnny après son décès, qu'il soit archivé, ok, mais qu'il soit disponible? Ça m'interpelle un peu, en fait.
C'est l'idée. Est-ce que c'est un compte, tu vois, qui a une valeur historique? Il faut probablement que la famille donne son accord. Enfin, je sais pas, c'est une histoire qui est même compliquée, quoi. Ouais.
Toujours dans le domaine légal et de la présence en ligne, il y a une affaire judiciaire en cours en Allemagne qui soulève les enjeux du droit à l'oubli. C'est une personne qui a été condamnée pour meurtre en 1982, ça ne nous rajeunit pas, Guillaume, et qui a été emprisonnée jusqu'en 2002 et qui, du coup, s'est retrouvée face à l'existence de publications qui le concernent et qui ont concerné cette situation et son incarcération. Et le problème, c'est que entre entre-temps, il y a eu le droit à l'oubli. Et ce monsieur, depuis, il demande, puisque tout ça est un peu de l'histoire ancienne, je vous raccourcis l'histoire, hein, mais un peu de l'histoire ancienne, il souhaiterait que soient déréférencés ces articles et les citations le concernant au sujet de ce qui s'est passé dans sa vie. Et j'avoue qu'il y a de quoi se poser la question, finalement. Est-ce que il faudrait laisser en ligne ces éléments parce que finalement tout le monde a le droit de savoir des portées fortes de situations criminelles? En même temps, est-ce que ça doit être des données publiques? Moi, mon sentiment très très personnel, c'est qu'on devrait faciliter encore plus le droit à l'oubli pour ce type de situation, puisque la personne a payé sa dette à la société, comme on dit, et je vois pas pourquoi elle devrait continuer à la payer publiquement, après qu'elle ait un casier judiciaire auprès de qui il puisse y avoir des requêtes pour avoir le passé judiciaire d'une personne. Oui, mais est-ce que ça doit être publiquement accessible sur Google? Quel est ton sentiment, Guillaume, à ce sujet-là, toi, petit perso?
Ouh là là, moi je vais me référer à la CNIL, hein, qui en 2014 a donné des différents critères comme ça pour appliquer ou non le droit à l'oubli. Et donc effectivement c'est conditionnel, quoi. C'est le droit à l'oubli, c'est pas forcément systématique, quoi. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc est-ce que c'est une personnalité publique, est-ce que c'est un mineur, est-ce qu'il y a beaucoup trop d'informations, est-ce que c'est des informations à jour, est-ce qu'elles sont trompeuses, est-ce qu'elles portent préjudice au plaignant ou pas, bon, est-ce que c'est à des fins journalistiques, tu vois, bon, c'est il y a tout un tas de critères comme ça qui permettent de décider si oui ou non tu as le droit à l'oubli. Donc c'est quand même réglementé de toute façon, quoi. Après, bon, moi, à titre personnel, je dirais que ça dépend des cas, je suppose, mais bon.
On va terminer avec deux petites news. Le gouvernement ne sait toujours pas s'il doit trancher au sujet des machines à voter qui sont présentes, hein, déjà dans certains emplacements en France. Alors, ça a des vertus, c'est pratique, notamment a priori ça pourrait faciliter pour les personnes qui ont des situations de handicap le fait de participer au vote. Et en même temps, il y a des difficultés, c'est qu'on peut pas garantir le dépouillement par tout le monde. Et puis, ça soulève des questions quant à la possibilité éventuellement d'être hacké, à pondérer sur le fait que c'est des machines qui sont quand même à la base prévues pour pas être hackées et qui sont pas connectées à Internet. Donc bon, voilà, il y a un savant équilibre d'avis de pour et de contre au sujet des machines à voter. J'ai tendance à penser, dans le doute, abstiens-toi, surtout que les avancées... Alors, il y a toujours cet aspect de faciliter le vote à des personnes en situation de handicap, mais j'ai quand même l'impression que le bon vieux bulletin en papier dans l'enveloppe reste le moyen le plus sûr et le plus vérifiable pour un truc aussi clé que la démocratie. Mais ça ne reste évidemment que mon avis. En revanche, l'État s'est fait un avis, en tout cas de par les commissariats, au sujet de l'équipement de boîtes d'extraction de données de smartphones. Donc d'ici 2024, il y en a des centaines qui vont être installées dans les commissariats. C'est un appel d'offres et une commande publique qui a été faite. Et donc, vont être équipés des appareils de la société Cellebrite. Hein, on en avait vachement parlé dans le cadre de l'affaire de la tuerie de San Bernardino, avec la volonté de déverrouiller l'iPhone de l'auteur de la tuerie. Il faut garder à l'esprit que ces outils-là sont hyper puissants, mais qu'on ne connaît pas toute la portée de tous les appareils qui peuvent amener à débloquer. On nous dit en tout cas qu'il est possible de cibler vraiment la recherche, donc de vraiment chercher une partie des données, comme par exemple les photos ou que les SMS, que ça doit se faire dans le cadre d'une procédure judiciaire, et qu'il y a surtout une traçabilité dans les recherches, c'est-à-dire que on va pouvoir savoir théoriquement avec ces appareils-là quels sont les actions qui ont été menées via ces appareils-là sur un smartphone, par exemple. Ça laisse un petit peu songeur quant au débat qu'on a déjà eu, mais je peux tout à fait comprendre que les autorités aient besoin de se doter de moyens pour mener leurs investigations dans les meilleures conditions possibles. Une réaction peut-être, Guillaume, sur les machines à voter ou les machines à débloquer les smartphones, ou les deux?
Et bon, sur les machines à débloquer, bon, moi j'ai pas changé, hein, je veux dire, hein, si les machines à débloquer existent, ce serait... C'est normal que que la police l'utilise, je veux dire, c'est même, est-ce que c'est même pas un devoir moral, c'est-à-dire s'il y a la possibilité technique de rentrer, de pénétrer le téléphone d'un criminel pour pouvoir prouver que c'est un criminel et éventuellement donc l'arrêter ou je sais pas, ou le prévenir qu'il fasse d'autres trucs. Est-ce que, tu vois, est-ce que s'en priver, enfin, ça paraît pas très logique, quoi. Hein, d'autant plus que, encore une fois, hein, ça exploite des vulnérabilités qui sont dans les téléphones. C'est pas des vulnérabilités systémiques, hein, ça exploite des vulnérabilités au cas par cas qui sont dans les téléphones. Donc moi, ça me pose pas de soucis.
On passe au bonus, Guillaume. Qu'est-ce que tu emmenais dans ta besace pour les bonus de cet épisode?
Bah, écoute, puisque je peux pas parler de bébé Yoda, puisque hein, ça... Franchement, Ouais, mais écoute, il a cassé Internet déjà, bébé Yoda, c'est fou. On peut pas parler du Mandalorian parce que, bon, voilà, malgré que ce soit très bien. Parce que Disney a choisi de se faire taper dessus, quoi, je sais pas. Ils sortent un truc qui est incroyablement populaire, qui a que des revues positives et avec des personnages qui sont devenus des mèmes, je veux dire, seconde une où ils sont apparus à l'écran, tu sais. Et nous, on doit attendre 6 mois pour le regarder.
C'est vrai qu'à l'échelle de quelques mois, ça aurait tellement été plus puissant de s'assurer qu'un maximum de pays soit couvert pour l'ouvrir à tout le monde. Mais bon,
c'est absurde. Donc, comme on ne va pas parler de Baby Yoda, on va parler de Rick et Morty, parce que la saison 4 est donc de sortie, elle est en cours de diffusion, donc vous pouvez la regarder sur Toonami ou sur Molotov, puisqu'il y a donc c'est Adult Swim qui fait ça, ils sont en partenariat avec Molotov. Et donc, la saison 4 est toujours sympa. Hein. Bon, moi, j'aime beaucoup Rick et Morty, c'est toujours aussi délirant. Et donc, il faut aussi quand même savoir que ça va s'arrêter à un moment à l'épisode 10, et après ça va, alors que la saison ne sera pas terminée, apparemment il va y avoir une longue pause, les auteurs sont en train de revoir certains épisodes, et donc il reviendra début 2020, voilà, pour la suite des 5 épisodes donc inédits de Rick et Morty saison 4. Donc je conseille toujours Rick et Morty, tout simplement.
Merci Guillaume. Dans mes bonus, je vous avais parlé il y a de ça quelques temps, de HoundCloud, qui est une espèce de solution à la Google Drive ou Dropbox que vous pouvez installer sur vos propres machines, et on m'avait conseillé derrière de plutôt passer à Nextcloud, qui avait des performances bien plus intéressantes et une maintenance qui était plus à jour. Et ben je ne regrette pas d'avoir fait le petit move, c'est très simple, hein, si vous avez un serveur ou n'importe quel ordinateur sur lequel vous pouvez installer ce type de service, ça va vous permettre d'avoir quelque chose comme je vous le dis, de l'ordre du Google Drive ou de tous ces services à la Dropbox, avec des gestions d'utilisateurs, avec des partages de fichiers par lien, avec des gestions de droits. Donc si vous voulez créer des boîtes pour vous déposer des fichiers à des personnes, vous allez pouvoir le faire avec des suivis de statistiques, des gestions de quotas. Bref, tout ça fonctionne extrêmement bien. C'est de l'open source, vous pouvez le télécharger et l'installer sur vos propres machines sans problème. Moi, j'ai adoré m'en servir. Évidemment, c'est un peu barbu, hein, c'est pas accessible grand public, mais ça mérite le détour si le sujet vous intéresse. Merci Guillaume pour cet épisode de Tech Café. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut interagir avec toi? A priori pas sur Twitter puisque ton compte va être supprimé, mais où?
Non, pas sur Twitter, on me retrouvera jamais, pas du tout, derrière un VPN, absolument pas. Et donc, écoute, on peut me retrouver éventuellement sur Telegram, mais dans les commentaires et tout ça.
Merci Guillaume. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, mon site où vous retrouvez des articles de blog et des liens vers les différentes mises en ligne des épisodes de podcast dans lesquels j'officie. Et vous retrouvez aussi tous les liens pour me retrouver, notamment sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous si vous avez apprécié cet épisode, si jamais l'information qu'on vous a délivrée vous sert à quelque chose, si jamais elle a une place dans votre agenda hebdomadaire, si jamais c'est un petit rendez-vous que vous vous donnez. Faire deux choses. D'une première chose, c'est de trouver un appareil Apple d'un proche si vous n'en avez pas, ou de chez vous si vous en possédez un, et d'aller chercher Tech Café sur Apple Podcast et de déposer simplement 5 étoiles et puis de dire en quoi vous trouvez le podcast génial. Ça donne une belle visibilité au podcast d'avoir beaucoup d'avis avec une très bonne note, donc je vous en remercie par avance. Et puis aussi, si jamais le cœur vous en dit et si jamais vous voulez vraiment concrètement soutenir l'émission, rendez-vous sur Patreon, c'est patreon.com/techcafé, où vous avez toutes les informations et les différents niveaux de participation auxquels vous pourrez souscrire pour nous accompagner dans notre travail pour le podcast. Merci beaucoup de votre fidélité, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.